Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Mon Paris FM à l'écoute de Politiquement Vôtre, votre émission mensuelle qui traite des questions sociales et politiques. Dans ce programme, imaginé par les acteurs sociaux des centres Goscinny et Oudiné, des jeunes, politisés ou non, font face à des personnalités politiques. Tous ensemble, nous échangeons sur des sujets d'actualité afin de mieux appréhender l'impact concret de la politique sur nos vies quotidiennes. Avec nous en studio aujourd'hui, j'ai une très très belle table. On va commencer par Assia. Bonjour Assia, comment ça va ?
Bonjour, ça va très bien et vous ?
Très bien, super. C'est la première fois que tu fais de la radio, Assia ?
Officiellement, oui.
Officiellement, oui. Donc je crois que tu es étudiante à l'INALCO, c'est ça ?
C'est ça.
En deuxième année ?
En deuxième année, effectivement.
C'est pour faire quoi ?
Alors,
qu'est-ce que tu étudies déjà, pardon, et c'est pour faire quoi plus tard ?
Alors actuellement, je suis en licence LLCER d'arabe littéral. Mais à côté, j'ai l'option accès santé, donc c'est pour pouvoir par la suite accéder à des filières de santé, donc potentiellement la médecine.
D'accord.
Dans l'idéal.
Très bien, merci. Avec nous, il y a une camarade de promo d'Assia, c'est ça, Ambrine. Bonjour Ambrine, comment ça va ?
Ça va et toi ?
Ouais, super.
Bah, du coup, moi, je suis le même parcours que Assia en deuxième année de licence d'arabe littéraire avec l'option accès santé dans le but de pouvoir accéder aux études de médecine également ou dentaire aussi.
D'accord. Très bien. Bah, première fois aussi que tu fais de la radio officiellement ?
Exactement, la première fois.
Bah, on va faire une super émission ensemble. Avec nous, il y a notre cher chroniqueur Thibaut qui fait son retour. Comment ça va Thibaut ?
Eh bien écoute, ça va super. Franchement, ravi d'être là.
Très bien, très bien. On reviendra plus tard pour ta chronique. Et avec nous, enfin notre invité, David Billiard. Bonjour,
bonjour
David.
Bonjour.
Déjà, merci d'être parmi nous. C'est un peu vous qui lancez la campagne présidentielle.
Alors, pas présidentielle, municipale.
Municipale ouais. Pour Paris, chez Mon Paris FM. Donc, on est ravis de vous accueillir. Merci.
Merci de l'invitation.
Avec grand plaisir. Donc, je vais d'abord présenter notre invité David Billiard pour les auditeurs et auditrices qui ne vous connaissent pas. Et ensuite, on va passer au jeu des questions-réponses. C'est parti. Alors, David Billiard, vous avez 47 ans et vous avez grandi en Haute-Saône, dans l'Est de la France, dans une famille modeste. C'est pour vos études que vous venez vivre sur Paris, notamment en lettres modernes et en sociologie. Vous avez ensuite eu un parcours riche, puisque vous avez été directeur financier, puis directeur général adjoint du CIDACTION, avant de vous consacrer au journalisme, pour le journal mensuel Alternatives économiques, dont vous étiez également le directeur de développement. Après votre adhésion chez les écologistes, vous devenez élu au Conseil de Paris et président du groupe des écologistes suite au municipal de 2014 avant d'être la tête de liste pour les élections 2020. Vous avez rejoint Anne Hidalgo au second tour qui vous a nommé adjoint en charge de la transformation de l'espace public et des mobilités. Vous avez à nouveau été désigné par vos militants pour être tête de liste aux prochaines élections municipales qui se dérouleront le 15 et 22 mars prochain. David, première question. Comment avez-vous attrapé le virus de la politique ? Qu'est-ce qui vous a donné envie de prendre cette voie-là après tout ce que vous avez fait, toutes vos différentes responsabilités ?
Eh ben, je me le pose encore cette question parce que en fait, la politique c'est quand même un exercice difficile, assez contraignant, mais très positif en fait. Quand vous faites de la politique, notamment au niveau local, eh ben, vous pouvez vraiment changer les choses. Alors est-ce qu'on change le monde ? J'en sais rien, mais on change un peu la réalité et on change un peu la vie. Moi, j'ai passé 5 ans à faire des pistes cyclables, à transformer l'espace public, à faire des forêts, à planter des arbres, à réduire la circulation, à faire des réunions très compliquées et à être harcelé sur Twitter. Mais globalement, quand même, ce sont quand même des transformations qui sont des transformations qui sont concrètes. Et moi, je crois beaucoup au concret des choses. Voilà, je ne crois pas du tout aux trucs vaporeux. Je pense que le débat public aujourd'hui, il meurt de ça. Il meurt des petites phrases et les réseaux sociaux y sont pour beaucoup. Et je pense qu'en fait, à un moment donné, eh ben, on peut aussi se dire que face aux fake news, face à tout ce qui peut se passer dans le monde, eh bien, le bas de la rue, ça ne ment pas, quoi. Donc voilà, en bas de la rue, vous savez si c'est propre, vous savez si vous êtes en sécurité. On parlait tout à l'heure des pires lignes de métro. Ben, ça, c'est de la réalité vécue. Je ne dis pas que c'est que ça, la politique, bien sûr. C'est aussi la gauche, c'est aussi la droite, c'est aussi les écologistes. C'est une vision du monde, mais c'est aussi quand même des choses qui sont... concret et de la réalité des choses. Puis enfin, je fais de la politique depuis longtemps. En fait, en vérité, lorsqu'on est dans une association, lorsqu'on fait ce type, par exemple, d'émission ce matin, lorsqu'on est dans des, on fait du bénévolat, ou on est dans des lieux qui font de la solidarité, par exemple, ou de l'environnement de tous les jours. En fait, on fait de la politique. Et je vais même te dire, je pense qu'on fait parfois de la politique de manière un peu plus noble que le truc partidaire. Moi, je suis membre d'un parti politique, même si je pense que la démocratie, elle doit se faire, elle doit vivre. Donc, merci pour l'invitation. On doit la faire vivre. Il ne faut pas avoir honte non plus de faire de la politique. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup d'ambition pour Paris. On a une vision à défendre, donc on va la défendre. Et puis voilà, puis il y a une vie avant la politique et il y aura une vie après.
Très bien. Et pourquoi tu as choisi de faire de la politique justement à Paris, sachant que tu viens de Haute-Saône, qu'il y a d'immenses défis sur ce territoire? Je te laisse nous dire pourquoi est-ce que tu as voulu dédier ton engagement à Paris.
En fait, c'est pas totalement moi qui ai choisi Paris, c'est Paris un peu qui m'a choisi. C'est en gros, moi j'aime beaucoup la Haute-Saône. La Haute-Saône, il faut s'imaginer ce que c'est. Enfin, en tout cas, moi, là où j'ai vécu, c'est un tout petit village, c'est le village français, la petite église, les 110 habitants, les trucs vallonnés, c'est magnifique, c'est super. En fait, on vit. Moi, j'ai vécu une enfance absolument extraordinaire. J'avais un terrain de jeu qui était l'équivalent de la superficie de Paris. Donc évidemment, et je pouvais le faire seul, sans voilà, on était libre, quoi, libre. Sauf que à l'adolescence, évidemment, lorsque vous êtes gay, lorsque vous avez vous commencez à savoir que vous êtes gay et que vous avez des aspirations à voir le monde, évidemment, cet espace-là, il devient tout rikiki, parce que vous dites, ah merde, en fait, mon horizon de vie, c'est la place du village et les champs, que je me suis mis à détester. Maintenant, je me suis réconcilié, mais à l'époque, j'avais envie de fuir. Et évidemment, c'est quoi la liberté? C'est la ville. Et la ville en France... qui est cette ville de la diversité, qui était en fait toutes ces valeurs qui n'étaient pas exactement celles que je pouvais vivre dans mon village. Moi, j'ai vécu dans un milieu assez conservateur, à bien des égards, il faut le dire, raciste, mais aussi avec des choses très positives. Enfin voilà, c'est un mix, quoi. Évidemment, c'est Paris. Et donc, j'ai souhaité faire ma vie à Paris. Et ensuite, mon territoire, ma ville... l'endroit, mon quartier, sont devenus en fait ce pourquoi j'avais envie de militer et ce pourquoi j'avais envie de m'investir. C'est pour ça que c'est dans ça que mon rapport à Paris il est là. C'est le Paris de l'émancipation. Vous arrivez et tout d'un coup la ville vous donne des opportunités. Et c'est d'ailleurs un des éléments du projet qu'on porte, c'est-à-dire de se dire qu'aujourd'hui c'est très cher, c'est très relou d'habiter à Paris, mais que ça reste une ville extraordinaire, pleine de richesses. Et puis dans le monde dans lequel on est, les grandes villes, et on le voit à New York par exemple, peuvent rester quand même des remparts de valeurs qui sont des valeurs très progressistes, très positives, très woke d'une certaine manière. Et moi, je suis favorable à ça. Enfin, moi, c'est ce que je défends. Et du coup, ça vaut le coup de s'investir quand même
pour cette ville. Très bien, merci. C'est les parcours de vie qui l'expliquent aussi. Ambrine, on va te laisser poser la première question. Vas-y.
Alors moi, j'avais une question concernant la jeunesse. On sait que la jeunesse reste la relève et fait preuve de grandes attentes politiques dans le futur. On parle beaucoup de vouloir changer les choses et chaque personne qui se présente s'engage toujours à du renouveau, à être du bon côté. Mais pourquoi devrions-nous porter un intérêt et soumettre notre vote envers vos convictions et pas celle d'un autre candidat municipal ?
D'abord parce que... Alors c'est difficile comme question parce que voilà, après... Bon, d'abord parce qu'on est super et que je suis hyper sympa. Et même si j'ai 47 ans, merci de l'avoir indiqué dans l'introduction, moi, dans ma tête, je suis beaucoup plus jeune.
C'est très jeune, 47 ans, en politique.
Ouais, enfin non, en fait, je le vois. Je vois à quel point aussi ça commence à vieillir. Moi, je fais partie d'un... Moi, mon engagement politique, il parle de la question des générations. Il parle de la question de la jeunesse. Je viens d'avoir un enfant qu'on a adopté avec mon mari. Et en fait, je le vois tous les jours maintenant, je le ressens dans ma chair. En fait, je vois à quel point, et je me pose toujours la question, peut-être pas tous les matins, mais souvent, je me dis, waouh, c'est quoi qu'on va léguer d'une certaine manière? Ça a l'air un peu con comme ça, mais c'est quoi qu'on va léguer? Et on voit bien qu'en fait, on est dans un moment où on peut se perdre dans le désespoir, tellement la situation est violente, brutale. Aujourd'hui, là, on est à 10 ans de la COP 21 et on sait qu'en fait, il y a une accélération des dérèglements climatiques, qu'on a dépassé les 7 limites et qu'on est à plus de 1,5 degré climat. Tout ça, en fait, a l'air de chiffres un peu abscons, mais c'est une réalité qu'on va vivre. Et moi, je vais le vivre un peu, mais toi, avec ton âge, tu vas le vivre beaucoup. Et mon enfant, il va le vivre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, en fait, ce que nous sommes en train de faire, c'est d'abord une question d'héritage. ce que nous sommes en train de... Moi, ma famille politique, cette campagne électorale, c'est pas juste pour nous, c'est aussi pour celles et ceux qui sont les plus jeunes et qui vont d'ailleurs être en partie quand même sur notre liste, parce que je souhaite que les jeunes soient représentés par les écologistes. Et enfin, ça se traduit par des choses très concrètes, notamment de permettre aux jeunes d'accéder à Paris, de pouvoir avoir, par exemple, plus de logements et plus de facilité pour des logements. Ça, c'est ce que nous proposons, c'est-à-dire un effort d'investissement très fort, notamment sur les jeunes, pas que les étudiants, parce qu'on oublie, on parle souvent que des étudiants, mais aussi, par exemple, pour les jeunes travailleurs. Et on a les jeunes et jeunes travailleuses. Et on a, en fait, toute une série, on va porter toute une série de propositions à destination de la jeunesse, parce que ça fait partie de notre ADN. Voilà, notre ADN, moi je sais très bien que les jeunes aujourd'hui votent beaucoup plus Rassemblement National en France que écologiste, mais moi je crois profondément que notre projet à nous, c'est un projet positif pour la jeunesse et que c'est à nous aussi eh bien, de nous adresser à elle, notamment sur la question du loyer, la question de l'alimentation, la question des études, des choix, du libre choix. Voilà, moi ce qui m'intéresse c'est que les jeunes ils puissent avoir un choix libre et conscient. Voilà.
Très bien, on va revenir sur toutes ces questions. J'aimerais savoir, vous êtes signalé par votre engagement, notamment par une tribune au Monde en 2012 où vous demandiez aux personnes, on va dire, publiques homosexuelles de faire leur coming out. Mmh. Puis vous avez créé l'association des journalistes LGBT. J'aimerais savoir si la lutte pour les droits LGBTQIA+, c'est le cœur de votre engagement et est-ce qu'il y en a d'autres ?
C'est évidemment un des cœurs. Enfin, quand on fait de la politique, pas de manière désincarnée, on fait de la politique avec soi. Tu parlais de la question de l'histoire. Évidemment, les parcours, ils expliquent beaucoup de choses. Et moi, je ne crois pas du tout qu'on fait de la politique de manière techno, en se disant, voilà, c'est que des chiffres et tout ça. On fait avec soi. Donc évidemment, la question de l'orientation sexuelle et surtout de l'expérience de la minorité, parce que en fait, en vérité, c'est pas l'homosexualité en tant que telle, c'est d'avoir des expériences de violence ou de domination, notamment par exemple à l'école. Et c'est en ça que je crois, je parlais tout à l'heure de wokisme, je sais que c'est un mot qui fait peur, mais c'est en ça qu'il y a des liens. C'est pas la même chose, mais il y a des liens et que je me sens en proximité, notamment par exemple avec les mouvements féministes ou avec les mouvements antiracistes. Parce que non pas que j'ai vécu le racisme par exemple, moi je suis blanc, donc, j'ai vécu dans un milieu blanc, mais par contre, l'expérience d'une forme de domination, d'ostracisation, de discrimination, bon, ben ça, je l'ai subi dans ma chair et je l'ai subi longtemps. Et encore aujourd'hui, j'en ai des stigmates. Donc, je vois bien, en fait, à quel point c'est compliqué. Donc, plus que la question LGBT, qui est pour moi évidemment très importante, c'est aussi de la lutte contre les discriminations. Et quand je parlais de libre choix, moi, ce qui m'intéresse, parce que pour être libre, il faut avoir la capacité à l'être. Et la capacité à l'être, c'est d'avoir les moyens de l'être, au sens, dans tous les sens du terme, mais c'est aussi d'être dans un environnement qui est un environnement safe, qui permet aussi eh bien, d'expérimenter ses propres choix et de pouvoir les assumer. Voilà. Et moi, ça m'intéresse, et ça, c'est vraiment le cœur véritablement de l'engagement, c'est de permettre l'émancipation, c'est de permettre en fait, le libre choix des gens.
Merci. Asia, vas-y.
Alors, oui, moi, j'avais une question donc, pour revenir à ce que Henrine avait dit. Donc, l'écologie, concernant l'écologie, qui est une thématique au cœur de votre parti. Donc, on voit bien que l'écologie, ça intéresse énormément de jeunes, sauf que sa politisation, elle peine, entre guillemets, à faire effet, on va dire. Et ça reste, malgré tout, une idée très intéressante à développer, justement à mettre en avant et à... Enfin, pour sensibiliser les jeunes, mais du coup, j'aimerais savoir comment comptez-vous mettre en avant cette sensibilisation ?
C'est une question au cœur de la discussion d'aujourd'hui, enfin, au sens large. Moi, ça fait 15 ans, peut-être 20 ans que je suis chez les écolos. D'abord, je n'étais pas très actif, maintenant, je le suis beaucoup plus, je suis élu. Et en fait, tu peux avoir un... je me permets de te tutoyer, parce qu'on s'est dit qu'on se tutoyait avant l'émission.
Donc,
le truc, c'est qu'avant, on parlait d'écologie. Enfin, moi, je parlais d'écologie un petit peu de manière un peu lointaine. C'est les plus 1,5 degrés. C'est, voilà. Ça existe, hein, c'est vrai. Moi, je suis sensible à ça. Mais en fait, l'écologie, c'est, par exemple, comment on va bien bouffer. Ça, c'est très concret. C'est aujourd'hui, en fait, ben voilà, précarité alimentaire. J'ai été dans le 20e il y a quelques mois à une distribution alimentaire. C'est 400 jeunes, puisque ça s'adresse à des jeunes qui viennent chercher des paniers repas parce qu'en fait, ils n'ont pas les moyens d'acheter de la nourriture. Bon. Donc, c'est formidable en fait, qu'il y ait ces lieux de solidarité. Mais ça concerne une toute petite partie des gens. Il y a plein. La grande masse, elle n'accède pas en fait, à ces paniers alimentaires, ou elle a plus de mal à accéder à ces paniers alimentaires. Ben, par exemple, poser la question de comment on accède à une alimentation qui ne soit pas une alimentation de merde, mais qui soit une alimentation saine, OK, avec laquelle en fait, on peut se faire plaisir, mais qui ne nous rende pas malade, ben, ça, c'est une question profondément écolo. Et ça, par exemple, c'est une question qu'on peut traiter au niveau du local, avec des choses très, très concrètes. Notamment, la collectivité peut prendre en charge, d'une certaine manière, la distribution alimentaires. On va travailler, nous on travaille beaucoup sur la question de la sécurité sociale alimentaire. Et en fait, tu vois que là, pour le coup, c'est un truc très concret. Je te demande d'en donner un autre très rapidement. Bon, tu as 200 000 Parisiens et Parisiennes, à peu près, c'est ce qu'on estime, qui ont, là on va arriver dans l'hiver, qui crèvent de froid dans leur logement. Parce que c'est mal isolé. Isoler un logement, et en particulier à Paris, c'est hyper cher. Hyper cher. Comment on fait ? Ça, c'est de l'écologie. Il y a des solutions de financement, il y a des solutions énergétiques, de comment on fait de l'énergie verte et en protégeant et en empêchant les gens de se couper un bras pour se chauffer. Voilà, ça c'est ça. On va faire du concret. Et j'ai envie de te dire, en fait, on va montrer, et moi ce que je veux dire, c'est que l'écologie, c'est pas un truc de loin comme ça, et c'est pas non plus un truc, parce que ça c'est le grand débat, punitif. C'est pas un truc relou, en fait. C'est des solutions. Et on a des solutions qui sont très concrètes et que, en fait, on va porter. Oui, moi, je pense que les gens doivent avoir accès à de la nourriture, qui est de la nourriture saine et pas chère. Et donc, ça, c'est notre objectif. Moi, ce que je veux, c'est que 10% des Parisiens et Parisiennes qui, aujourd'hui, crèvent de froid l'hiver ou crèvent de chaud l'été, parce que c'est ça la réalité, eh bien, puissent vivre dans des appartements qui sont des appartements isolés. Et donc, ils vivent mieux. Voilà, c'est très concret. Et ce sont des réponses qui sont des réponses purement écolo.
Ce sont ces questions de sécurité alimentaire et de sécurité tout court, même sur le logement, qui t'ont poussé à militer chez les écologistes. Est-ce qu'il y a eu des raisons particulières qui ont fait que tu es allé vers ce mouvement-là et que tu as commencé à militer avec les écologistes ?
Alors moi, j'ai commencé à militer avec les écolos. Moi, je viens d'une génération, en fait, c'était le trou de l'ozone. J'étais au collège, donc il y avait un trou dans la couche d'ozone, tout ça. Et donc Skyrock, je me rappelle, à l'époque, avait fait une énorme campagne publicitaire pour expliquer qu'il fallait réduire le trou de la couche d'ozone. D'ailleurs, un exemple très clair de truc qu'on peut faire, ça veut dire que la politique peut fonctionner, c'est-à-dire que ce trou de la couche d'ozone, il se réduit. Donc, ça veut dire qu'en fait, on peut y arriver, parce qu'on utilisait des aérosols tout à fait merdiques et qui butaient la planète. Donc, on peut y arriver collectivement. Donc, moi, je viens un peu de cette génération-là. C'était les débuts. Hein. Enfin, il y a un truc comme ça. Au collège, on en parlait beaucoup. Moi, j'étais très sensible à ça. Et puis, un truc aussi qui n'est pas du tout écolo. Moi, je ne suis pas venu à l'écologie par l'environnement. J'aime beaucoup la nature, tout ça, mais je n'ai pas. Il y a des gens qui ont vraiment un rapport très puissant avec la nature, les animaux, les vivants et tout ça. Moi, je ne suis pas du tout venu comme ça. Moi, je suis venu parce que, en fait, les écolos avaient, pour la première fois, ils avaient mis une femme ministre de l'Environnement dans les années 90, qui s'appelait Dominique Voynet, et que je trouvais très courageuse parce qu'elle s'était fait déchiqueter son bureau par des chasseurs et qu'elle avait fait une conférence de presse. Moi, j'étais jeune, hein, j'avais 18 ans, et j'avais vu cette conférence de presse avec ce bureau vraiment saccagé. Et en fait, elle tenait et j'avais trouvé ça hyper courageux. En fait, en vérité, j'avais trouvé ça super courageux et je trouvais ça super qu'en fait un parti soit dirigé par une femme. À l'époque, c'était hyper rare. D'ailleurs, je note que ça l'est aussi beaucoup encore. Et le deuxième truc, c'est que les écolos, ils étaient hyper open sur les questions de minorité. Hein. Ils ont toujours été, il y a toujours été, et ça a toujours été en lien vraiment très fort. Parce qu'en fait, les dominations sur l'environnement sont... Il y a un truc, en fait, entre on exploite l'environnement, on domine l'environnement, les vivants et tout ça, et on domine les gens, on les contraint, on les exploite. Et en fait, tout ça fait une sorte de doctrine un peu globale. Et moi, c'est là-dedans que je me retrouve. C'est parfois un peu complexe. Même moi, je m'y perds. Mais en vérité, c'est quand même un truc assez positif. Et à l'époque, il y avait... Qui c'est qui a fait le premier mariage symbolique ? C'est Noël, ma mère. Hein. Et ça, c'était 2004.
des écologistes. Dominique Venet, qui a d'ailleurs été maire de Montreuil. Peut-être que tu la connais en bride.
Oui, tout à fait.
Thibaut, je crois que tu as une chronique pour nous. Je vais te donner la parole.
Parfait.
C'est ton tour. Vas-y.
C'est parti. On t'écoute. Donc, bonjour, David Béliard. C'est fou. Non, vraiment, c'est fou. J'arrête pas de le dire autour de moi. On vit quand même une période intéressante. Et oui, intéressante est un euphémisme. Alors, ça va peut-être faire vieux con de dire ça, mais vraiment, tout va trop vite au point que tout s'effondre. Ça commence déjà par ma blague sur le fait que je voulais te demander si tu connaissais pas quelqu'un qui connaît quelqu'un qui peut m'arranger un poste de ministre juste pour quelques heures. Galère de fin de mois, on connaît. Mais il y a déjà un gouvernement et il reprend les mêmes qui plus est. Vraiment, on n'en peut plus. Après... 2025, année des records. Bon, ça commence par des records de température. On y est malheureusement habitué, donc il va falloir trouver autre chose. Record de dividendes versés. Ça aussi, on y est habitué. Ah oui, ça y est. Record de soulèvements dans le monde. Le Népal, Madagascar, le Pérou, l'Indonésie, le Bangladesh, le Kenya, les Philippines, le Maroc, la Serbie. Bon, de toute façon, la recette, c'est très simple. Une génération, la Z, celle est née entre 1997 et 2012. Un drapeau, celui des chapeaux de paille dans One Piece. Et un objectif, renverser les tyrannies et les corrompus pour vivre dignement. Il aura fallu plusieurs crises mondiales du néolibéralisme, des mouvements de révolte, une pandémie mondiale et plusieurs génocides, dont un soutenu par des grands médias et des puissances occidentales, pour que des jeunes fans de shonen reprennent un des plus longs mangas encore en cours et le transforment en symbole révolutionnaire. Oui, David Béliard, le monde bouge, et il bouge vite. Et pour savoir dans quel monde on vit, il suffit de checker les catalogues de fiction sur les plateformes, ou les vidéoclubs pour les plus anciens. D'ailleurs, au moment d'écrire la chronique, petit quiz, je me suis demandé combien il restait de vidéoclubs en France. À votre avis, en 2023, combien il en restait ?
Je sais pas, à Paris, je crois qu'il en reste 3 ou 4.
Ouais.
En France, il doit en rester une vingtaine, on va dire.
Une dizaine de vidéoclubs.
Une dizaine.
En France, en ce moment, sur les plateformes, on a un mix entre Baron Noir, Les Visiteurs, OSS 117, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et Les Traîtres. Je te conseille la dernière saison de Marlène Schiappa, ça va pas te laisser de marbre. Ailleurs, on a Black Mirror, District 9, La Planète des Singes, Game of Thrones, Benny Hill, American Dad, voire la série Fallout qui se profile pour les plus pessimistes. Mais pour autant, David Béliard, on n'est pas ici pour te parler cinéma, mais bien pour te parler politique. On l'a dit, mais bon, je vais quand même le reciter. Tu commences ta carrière en tant que journaliste à Alternative Économique, donc j'imagine que t'es pas trop fan de François Langlais ou Dominique Seux. On enchaîne avec une tribune dans Le Monde pour inviter les personnalités publiques à sortir du placard, ce qui t'amènera non pas à investir à Ikea, mais lancer un projet d'archives LGBTQIA+, chapeau bas. Pour les municipales 2020, tu rejoins Alice Canfin, militante ELV plutôt arc-en-ciel avec des teintes rouges, puis tu rejoins la majorité PS d'Anne Hidalgo en tant que conseiller municipal ELV. Tu soutiens ensuite Yannick Jadot à la primaire des écologistes pour 2022. Tu te présentes actuellement sur les municipales de 2026, tout en défendant une partie du bilan de la mandature précédente. Donc mes questions sont les suivantes. À l'heure de la tripartition de la vie politique, gauche de gauche, centre qui dérive toujours plus vers la droite et droite réactionnaire, pardon, quelle gauche veux-tu incarner pour Paris ? À l'heure de la réunification du mouvement social et de la 6e République souhaitée par beaucoup d'entre nous, soutiens-tu la candidature surprise de Marine Tondelier pour les présidentielles de 2027 ? Et enfin, à l'heure d'une hégémonie d'une gauche de rupture dans les urnes, quel avenir pour les alliances traditionnelles PS, ELV, PCF ?
Waouh !
Beaucoup de questions.
C'est oral, un grand oral de Sciences Po. J'ai pas fait Sciences Po. Donc, d'abord, le Cinoche et les séries, c'est éminemment politique. Moi, j'adore ça. J'en bouffe. Je suis assez cinéphile. Voilà, j'aime beaucoup le Cinoche et notamment les séries. C'est plutôt là ce que je peux faire maintenant. Et c'est vrai que c'est une photographie assez forte de la situation, ou en tout cas de ce qu'on vit. Moi, je note quand même que ce qui sort en ce moment, c'est des choses aussi un peu plus feel-good movie qu'il y a 5 ans. C'est-à-dire qu'en fait, là, aujourd'hui, on est plutôt sur un truc... il y a 5 ans, c'était Black Mirror, c'était le grand carton de l'époque. Il y avait cette série aussi, Effondrement, je crois. Je ne sais pas si vous avez vu.
Très bonne série des Parasites sur Canal+.
Ouais, un truc vraiment... comment c'est ?
C'est l'effondrement. Et donc, en fait, chaque épisode, c'est un plan séquence.
Oui, c'est ça.
Sur plusieurs étapes dans l'effondrement justement de notre société.
Ouais, c'est extraordinaire. Enfin voilà, vous pouvez regarder ça. Mais c'est pas très feel good movie quoi. C'est style le monde s'effondre. Donc le deuxième, par contre, là aujourd'hui, moi j'ai regardé Bistronomia par exemple, l'histoire notamment d'une jeune femme qui est chef, enfin qui travaille chez un chef étoilé et qui réussit à monter son resto et qui vient du 93. Donc il y a un petit côté un peu je réussis et tout ça. Et je trouve que c'est assez positif. Moi qui aime bien la bouffe, en plus, je trouve ça super. Après, pour parler de toutes les questions, quelle gauche je veux incarner, ben, en fait, la gauche de la liberté, en fait, la gauche de l'émancipation, la gauche qui répond aux problèmes concrets, la gauche qui n'est pas coincée dans la violence et la brutalité ou dans la connivence avec le libéralisme. Parce qu'en fait, en vérité, il faut être un peu clair. Aujourd'hui, on a un problème de modèle, donc il faut rompre avec le modèle qui est un modèle actuel. J'étais hier devant Chine et qui s'installe au BHV. Et en fait, bah, ça, c'est l'expression d'un modèle. C'est-à-dire que, grosso modo, on laisse des gens se prospérer. On les aide même, d'ailleurs. Hein. Il y a des anciens ministres qui ont travaillé pour Chine. Et on les laisse prospérer. Puis, à la fin, vous avez une plateforme qui est complètement en dehors de toutes les lois, qui vend, qui vend la ramasse de trucs qui viennent de l'autre bout du monde, fabriqués par des esclaves. Et on arrive à trouver des poupées pour des pédophiles dans ce truc-là. Enfin, je veux dire, c'est ça, hein, le système dans lequel on est. Et ça, c'est un peu l'expression la plus brutale ou la plus violente du truc. Donc, il faut changer ça. Et moi, je ne dis pas qu'avec mes petits bras, on va y arriver. Mais Paris, quand même, c'est déjà un élément très fort. Donc, ça veut dire collectivement, on peut y arriver. Et puis ensuite, effectivement, moi, je pense qu'il ne faut pas faire dans la nuance. Nous, on n'est pas moi, je ne suis pas un libéral. Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir de connivence, qu'il faut rompre avec ce gouvernement et avec ces politiques qui sont des politiques qui nous détruisent et qui détruisent les services publics. Et puis, par contre, je ne me reconnais pas non plus dans une gauche qui est une gauche plus, disons, revendicative, qui est plus d'ailleurs jacobine que girondine, c'est-à-dire vraiment, voilà, qui est très du haut vers le bas, avec le culte du chef. Voilà. Moi, je veux travailler avec ces gens-là, bien sûr, parce que je pense que l'union des gauches, c'est quelque chose de très important et c'est ce qui va nous permettre, c'est ce qui peut nous permettre d'éviter le pire. Donc ça, c'est très évidemment, je suis très clair là-dessus. Mais si on me demande, moi, où je me situe, évidemment, c'est vraiment quelque chose où moi, je crois au collectif. Nous, on a commencé la campagne avec Paris est à vous. En fait, Paris est à vous, ce n'est pas juste un slogan. C'est aussi le fait que je pense que la politique, elle se fait aussi avec les gens. Donc, en fait, en vérité, c'est collectivement. Et si les gens, ils n'ont pas envie, bah, ils n'ont pas envie. Mais par contre, s'ils ont envie, on leur donnera toute leur place. Donc, c'est ça un peu que je vois. Et puis ensuite, pour terminer... Je vais te dire, je pense que moi, les alliances et tout ça, tout ça a fortement changé. Moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même besoin d'avoir de l'union pour réussir à gagner. Et Paris est une ville, en fait, qui appelle ça, qui appelle des coalitions. Donc, je n'ai pas d'avis particulier sur les avenirs de tout ça. Moi, la seule chose que je peux te dire, c'est que cette alliance, je souhaite qu'elle soit menée par un projet et par un candidat, bien sûr, qui défend l'écologie populaire.
Très bien. On va revenir du coup plus précisément sur le programme que tu as pour Paris. Assia, je crois que tu avais une question sur le logement. Vas-y.
Oui, effectivement. Alors, on observe qu'à Paris, les prix, principalement ceux des loyers, sont de plus en plus chers. Donc, énormément de personnes, et notamment les jeunes, se plaignent du coup de la vie qui est quelque peu prohibitive. Et on remarque donc, par exemple, on remarque une fracture assez importante entre la capitale et la périphérie. Notamment à travers le pouvoir d'achat. Ainsi, est-ce que vous envisagez des dispositifs à mettre en place pour pallier à cela? Donc, par exemple, à l'image de Zoran Madani, qui a été élu il y a...
48 heures.
Il y a deux jours, voilà. Ouais. Quelles mesures, donc, selon vous, rendraient Paris un peu plus abordable?
Alors, juste, je vais compléter. Je crois que vous avez parlé dans Le Monde de faire 30%, d'arriver à l'objectif de 30% de logements sociaux.
40% de logements publics.
40%.
Ça veut dire 30% de logements sociaux, 10% de logements publics.
C'est ça. Et ouais, du ça, coup, ouais. pour compléter ce que disait Assia, comment, donc pour le logement, pour les logements sociaux, et comment contraindre aussi le parc privé à être moins cher, parce qu'on le sait quand on disait que c'était prohibitif, effectivement, c'est les gens qui vivent dans le privé qui ont beaucoup de mal à avoir des loyers encadrés. Donc, comment est-ce qu'on peut ou pas encadrer les loyers à Paris au-delà de faire du parc public?
Alors, plein de questions là-dedans. D'abord, pourquoi 30% plus 10% de logements publics? Ça, là aussi, ça peut paraître des chiffres, mais c'est en fait la réappropriation par la ville du foncier. Le foncier, c'est une mine d'or. Enfin, vous voyez, ça coûte très cher à Paris. Le moindre appartement de 20 mètres carrés, il est vendu 200 000 balles. C'est un truc un peu... En fait, quand on regarde un peu, c'est un truc un peu hallucinant. Bon. Donc, moi, je pense que la collectivité, elle doit reprendre la main. Voilà. Et quand la collectivité, elle reprend la main, c'est nous toutes et tous qui reprenons la main. Et donc, avec des loyers et des logements qui sont des logements soit sociaux, soit, avec là, pour le coup, avec des loyers que nous aurions la maîtrise. Parce qu'en fait, l'objectif, c'est que tout le monde puisse, toutes celles et ceux qui le souhaitent, puissent se loger dans cette ville. Et ensuite, effectivement, vous avez 60%, enfin aujourd'hui beaucoup plus, mais du parc qui est le parc privé. Ben, il faut lutter contre la spéculation immobilière. En fait, on a un problème. Je parlais de Chine tout à l'heure. Chine, c'est l'expression d'une dérive de système, ou en tout cas, ou le cœur du système même d'ailleurs. Et bien là, c'est pareil. En fait, on a des gens qui aujourd'hui, par exemple avec Airbnb, eh bien, font monter de manière artificielle les prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez 60 000 logements qui pourraient être loués aux gens, parce que c'est très compliqué hein, de se louer, de louer un appartement. Et on est revenu dans des situations qui étaient des situations début des années 2000. Moi, j'ai galéré comme un malade pour obtenir mon premier appart, pour pouvoir louer mon premier appart. Et je pensais que les choses, enfin, je voyais que les choses s'étaient un peu améliorées entre temps, mais là, depuis plusieurs années, c'est l'enfer. Vous avez 60 000 logements qui sont volés aux Parisiens. Ils sont volés aux Parisiens, aux Parisiennes.
Et beaucoup de logements vides aussi, qui sont vacants, parce qu'il y a des personnes qui vivent un peu partout.
Oui, j'y viens, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que vous avez les Airbnb. D'un côté, vous avez effectivement des gens qui sont très riches, qui peuvent se permettre d'avoir des logements de vacances, d'une certaine manière, ou des logements qui ne sont pas utilisés, ou utilisés une à deux semaines par an. Et ça fait presque 200 000, un peu plus même d'ailleurs, 250 000 logements, grosso modo. Donc, vous avez en fait il y a 2 millions de personnes. Donc, en fait, ces logements-là, si vous mettez à peu près 2 personnes dans ces logements, en gros, en moyenne, vous voyez que vous pouvez loger 20% de la population. C'est énorme, énorme. Moi, je trouve ça très honteux, d'une certaine manière. En fait, le foncier, les logements dans une ville qui est dense, on appelle ça des villes en tension, eh bien, en fait, c'est un bien commun. Voilà. Je ne dis pas qu'il faut spoiler, mais moi, je suis pour que les collectivités comme Paris, elles récupèrent le droit prendre les logements.
Réquisitionner les logements.
Réquisitionner, merci. Le droit de réquisition. Que Airbnb Pro soit arrêté, parce qu'en fait, il faut arrêter avec tout ça, que nous mettions plus en place, et là, on mettra plus de moyens sur l'encadrement des loyers pour permettre en fait, à tout à chacun et chacune qui loue de pouvoir avoir accès à ses droits. Parce qu'en fait, dans cette ville, il y a un truc qui ne va pas, c'est qu'il y a plein de gens qui ont des droits qui ne les font pas, qui ne les utilisent pas. Donc moi, je crois au droit, c'est-à-dire le droit d'utiliser ses droits. Et ça, pour le coup... je pense qu'il faut que nous y mettions des moyens, et c'est ce que je souhaite et c'est ce que je propose dans ce programme, pour que l'encadrement des loyers soit vraiment effectif et que les gens qui louent et qui voient qu'il y a un problème puissent être accompagnés pour juridiquement contraindre les propriétaires à réduire les loyers. Nous, on a une promesse basique sur la question du logement: on veut faire baisser les loyers.
Très bien, c'est un bel objectif. Donc le logement, effectivement, c'est un enjeu important dans la ville de Paris, et aussi celui de la mobilité qui est important. Une des mesures les plus contestées de la dernière mandature, c'était l'abaissement de la vitesse du périphérique à 50 km/h. Plus globalement, les automobilistes sont assez mécontents de la place qui leur est laissée à Paris. Et vous, de ce que vous avez déclaré, vous voulez encore leur enlever un petit peu de place. Donc moi, je voulais vous demander comment on concilie la transformation vers une mobilité éco-responsable et la nécessité de se déplacer en voiture pour beaucoup, et notamment certains publics précaires.
Alors, je dis vraiment sans polémique aucune, les gens qui utilisent leur voiture à Paris, majoritairement, ne sont pas précaires. Il faut quand même. Je sais ce que veut dire CNews et tout ça, mais ce n'est pas précaire. C'est-à-dire, vous avez en fait des gens qui, effectivement, il y a toujours le contre-exemple. Moi aussi, hein, j'ai toujours un contre-exemple. Mais mon grand-oncle. Enfin, vous voyez, mais ça ne fait pas une statistique, ça ne fait pas une réalité.
Bien sûr.
En vérité, vous avez à peu près 50% des trajets à Paris qui sont de Paris à Paris. Et la majorité des gens aujourd'hui qui possèdent une voiture à Paris, qui vraiment possèdent une voiture à Paris, ce n'est pas ici, dans ce quartier. C'est dans le 16e arrondissement. Dans le 16e arrondissement, vous avez en fait des gens qui possèdent deux voitures ou plus, alors que, par exemple, dans l'Est parisien, eh bien, le taux de possession de voitures, il est plutôt de 0,3. Ça veut dire qu'il y a 7 Parisiens sur 10 dans ces zones-là qui ne possèdent pas de voiture. vous voyez le truc, c'est-à-dire que là-bas, on possède, dans l'Ouest, on possède beaucoup de voitures, dans l'Est, on n'en possède pas. Dans l'Est, c'est plus populaire, dans l'Ouest, c'est plus riche. Donc, il faut remettre en fait un peu l'église au milieu du village sur la question de la voiture. Et la conciliation, et en fait la question que moi je pose et que nous posons, c'est est-ce qu'on peut encore avoir autant de voitures dans une ville qui est en fait un centre-ville ? Paris, c'est un centre-ville, c'est le centre de la métropole du Grand Paris. Et donc, toutes les villes, on piétonise leur centre, réduisent la place de la voiture dans leur centre. Nous faisons exactement la même chose. Et l'idée, effectivement, c'est non pas d'interdire complètement la voiture, mais c'est plutôt de la réserver à des usages qui sont des usages essentiels pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes, par exemple, plus seniors ou pour les artisans qui ont besoin d'un véhicule pour pouvoir travailler. Après, on est dans une ville où vous avez un métro tous les 300 mètres. Hein. Vous êtes dans une ville où vous avez des bus qui doivent encore s'améliorer. On fera des propositions sur le sujet. Vous avez une ville où vous avez des vélos.
Le tramway, très performant.
Le tramway. Donc, on est dans une des villes, sans doute la ville la plus maillée en transport en commun. Il y a encore plein de problèmes.
Paris intramuros.
Paris intramuros, on en parlait tout à l'heure. Mais Paris intramuros, il y a plein de problèmes de qualité. Il y a plein de problèmes de lignes qui ne vont pas. Il y a plein de problèmes, en fait, on peut pas tous et toutes faire du vélo. Pas de problème avec ça.
Il n'y a plus de vélo bleu, souvent.
Il n'y a plus de vélo bleu, voilà, je sais, sur le Vélib. Mais c'est sûr, c'est une ville de 2 millions d'habitants, il y a 4 millions de personnes, tout ça. Je ne me défausse pas de mes responsabilités, et je pense, en fait, qu'on peut aller plus loin. Voilà, je pense qu'effectivement, on a besoin de faire respirer cette ville, et surtout, là, un peu d'écologie, c'est que, en fait, on va aller dans une ville qui va faire 50 degrés. Ça, qu'on fasse... voilà, je disais tout à l'heure, quand vous faites du local, vous ne changez pas forcément le monde. Et ça, c'est un truc qui s'impose à moi et qui s'impose à nous. Voilà. Et dans une ville à 50 degrés, en fait, il faut planter des arbres. Il faut mettre de la verdure. C'est un truc con, mais c'est vraiment ce qu'il faut faire. C'est la seule solution. Et donc, pour faire ça, il faut que nous récupérions de l'espace. Et pour récupérer de l'espace, aujourd'hui, eh bien, là où elle est, c'est la voiture qui l'utilise. Donc, c'est pour ça qu'on réduit aussi la place de la voiture. C'est pour planter des arbres. Et planter des arbres, ça veut dire rafraîchir lorsqu'il fait très, très chaud. Sinon, on n'arrivera plus à vivre dans cette ville.
Très bien. Je crois qu'on a très bien compris le pourquoi. Et maintenant, on va essayer de voir le comment. Parce qu'on sait que vous avez notamment beaucoup piétonnisé les abords des écoles avec vos dernières responsabilités. Juste, qu'est-ce que vous comptez faire si vous êtes élu maire de Paris, notamment dans l'aménagement du territoire ?
Alors, je ne sais pas, l'aménagement du territoire, au sens, mon modèle, en tout cas ce que je porte, c'est Paris 100% piéton, c'est-à-dire une ville où on pourra marcher en toute sécurité partout.
Donc c'est vers le 100% piéton.
Oui, on va vers le 100% piéton, ça ne veut pas dire zéro voiture, ça veut dire que juste on va pouvoir marcher partout à Paris. Il y a encore plein d'endroits à Paris où c'est très compliqué de marcher parce qu'on ne se sent pas en sécurité ou tout simplement parce qu'on a des mini-autoroutes qui traversent la ville et on a énormément de voitures. Donc oui, on va continuer, on fera des propositions notamment d'aménagement sur les grandes places, sur les portes, sur la transformation, tu en parlais tout à l'heure, du périphérique, sur la végétalisation d'un certain nombre de rues. On va continuer à sécuriser les écoles parce qu'en fait, il faut qu'on puisse être dans une ville où on peut simplement marcher. Parce que si on marche, ça veut dire qu'on peut faire du vélo et ça veut dire qu'on sait aussi on fait passer des bus.
Très bien. Ambrine, je crois que tu avais une petite question sur la sécurité en lien avec l'actualité, notamment le Louvre, qu'on a perdu les joyaux de la couronne. Vas-y.
Exactement. On a pu voir dans l'actualité, il y a quelques temps maintenant, le cambriolage du Louvre, qui a eu d'ailleurs une portée à l'échelle internationale. Est-ce qu'il y aura en conséquence de cela des initiatives afin de rendre les lieux culturels plus sécuritaires et afin de les préserver également ?
Alors ça, c'est la responsabilité de l'État, enfin sur les musées nationaux en tout cas. C'est pas pour me défausser, mais tu vois, ce débat, il est... moi, je le trouve très révélateur. On a fait une tribune dans Libération pour expliquer un peu notre positionnement sur le sujet. Qu'est-ce qui s'est passé au Louvre ? Le Louvre, en fait, c'est un joyau, j'allais dire un joyau de la couronne. On n'en a plus, mais disons que c'est un joyau culturel. C'est un établissement extraordinaire, en plus avec une grande histoire, une histoire révolutionnaire aussi. C'est la royauté et la révolution et la République. Et qu'est-ce qui se passe avec le Louvre ? C'est que c'est évidemment dans un endroit très high level et super beau. Donc, on a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de moyens dans un projet qui est un projet de nouvelle ouverture du Louvre. Parce qu'on veut faire passer en fait le Louvre de 9 millions à 11 millions, grosso modo, de visiteurs. Donc, c'est des questions de rentabilité et on veut faire une sorte de sortie, grande sortie, pour permettre aux gens d'aller à la Samaritaine qui appartient au groupe LVMH. Bon. Mais ça, c'est une vision de la culture. Mais ça, c'est l'État. C'est pas moi, c'est pas la ville de Paris. C'est l'État. Et qu'est-ce qu'on n'a pas fait du coup, parce qu'on a mis cet argent-là, parce que l'argent n'est pas, c'est une ressource limitée. Nous n'avons pas investi dans des choses essentielles, alors que les salariés, par exemple, le disaient depuis très longtemps. Alors que, en fait, on sait depuis longtemps que le Louvre a des problèmes, par exemple, de fuite d'eau dans les sanitaires, de détérioration de la qualité de l'accueil des visiteurs et des visiteuses, que nous avons effectivement, et que le Louvre a des problèmes de sécurité, parce qu'il n'y a pas assez d'agents qui sont investis, et parce que en fait le schéma de sécurité n'a pas été renouvelé ni actualisé, et on voit bien qu'on le paye aujourd'hui. Donc ce sont des choix en fait qui sont faits. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut revenir sur les questions d'essentiel. L'essentiel, c'est de permettre par exemple au Louvre, mais à tous les établissements culturels, et eh bien de pouvoir être évidemment en sécurité. Donc ça veut dire des plans de sécurité. Moi, je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais il y a des gens qui le font très très bien. Ça veut dire que les œuvres doivent être bien conservées, et conservées sans que, craindre qu'elles soient volées. Mais ça veut dire aussi que les gens qui veulent fréquenter ces œuvres, les découvrir, les partager aussi, eh bien, puissent le faire dans de bonnes conditions, parce que je crois que l'accès à la culture est une donnée clé d'ailleurs les politiques municipales. Donc à Paris, c'est un peu complexe. Vous êtes à une partie des musées qui sont nationaux, une partie des musées qui sont municipaux. Et puis tu as une partie des musées qui sont privés, donc tout ça ne répond pas tout à fait aux mêmes responsabilités, mais tout ça nous dit que quand même il y a vraiment un problème de choix culturel, et moi je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faut investir là où il y a déjà beaucoup d'argent. Voilà. Et le Louvre a besoin d'investissements, mais des investissements sur des choses basico-basiques, quoi.
Et on peut conclure aussi en disant que en fait, c'est aussi un résultat des politiques d'austérité, où il y a moins d'argent dans la culture, etc., et donc il y a moins de budget pour faire fonctionner le Louvre ou autre. Thibaut, je crois que tu avais une question aussi, vas-y.
Ouais, ça fait un peu la transition par rapport à tout ce qui vient de se dire. En fait, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que Paris, contrairement à pas mal d'autres villes en France, c'est aussi un enchevêtrement assez complexe de différents niveaux de pouvoir. Il y a le maire d'arrondissement, il y a le maire de la mairie de centrale, mais il y a aussi le préfet sur tout ce qui va être sécurité. Il y a la région par rapport au transport. Donc, suivant la politique que tu auras envie de faire au niveau des transports, bus, tramway, métro, potentiellement, tant que Pécresse est encore au pouvoir, tu risques de te faire un peu freiner par ces politiques-là. Donc, quelle marge de manœuvre tu vois par rapport à la politique que tu as envie de mettre en place?
Bah d'abord, Paris, c'est une ville ultra compliquée. Tu as raison. C'est très complexe. Tu veux enlever, je caricature un peu, mais tu veux enlever un plot dehors ou faire une piste cyclable. C'est un temps phénoménal parce que, par exemple, le ou la maire de Paris a beaucoup de pouvoir parce que c'est Paris, mais en même temps a moins de pouvoir que n'importe quelle autre maire dans n'importe quelle autre collectivité, parce que nous n'avons pas, par exemple, la main sur l'ensemble de notre espace public, comme on dit. Parce que vous avez, par exemple, dans le 13e, on a Boulevard de l'Hôpital. Boulevard de l'Hôpital, par exemple, c'est un axe dit PP, donc un axe préfecture de police, parce que vous avez des hôpitaux, parce que vous avez un commissariat, parce que c'est un axe entrant. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait des aménagements sur cet axe, il faut l'accord formel de la préfecture de police. Or, la préfecture de police n'a pas été élue par les Parisiens et les Parisiennes. Donc, elle n'a pas la légitimité démocratique.
Elle est nommée par qui d'ailleurs?
Du coup, le ministère de l'Intérieur. Et donc, évidemment, dans l'enchevêtrement de tout ce bordel, grosso modo, c'est que, en gros, vous voyez bien, une mairie de gauche, vous avez un État macroniste, donc de droite, mais Macron. Donc ça, c'est préfet, c'est l'État. Et vous avez une région qui est une région LR, donc une région de droite. Et donc tout ça doit coexister et cohabiter. C'est aussi un travail permanent, de rapport de force. Mais aussi parce que Paris est riche, donc ça permet aussi d'avoir des rapports de force. Aussi de discussions, de compromis. C'est une logique à avoir, et pour le coup c'est une logique que j'ai pu expérimenter pendant mes années de mandat, qui me permet de voir à quel point c'est complexe, de voir aussi comment on peut avancer certaines choses, et puis là où il faut par exemple prendre la main. Je vais te donner un exemple, les mineurs en attente de les jeunes en attente de recours de minorité, oui. Les jeunes migrants qui arrivent, dont on ne sait pas s'ils sont mineurs ou majeurs, et qui sont, lorsqu'ils sont en attente de recours, dans un entre-deux, qui fait que du coup, les jeunes mineurs, c'est le département, c'est Paris qui doit s'en occuper. Quand ils sont majeurs, c'est l'État qui doit s'en occuper. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. C'est, à partir de 18 ans, vous passez dans la responsabilité de l'État. Quand vous êtes dehors, dans la rue, voilà, c'est comme ça. Ces jeunes-là, ben, personne ne se fait. Est-ce que c'est la ville ou est-ce que c'est l'État? Et on s'est retrouvé, par exemple, avec 400 jeunes, 450 jeunes, à la gaieté lyrique, dans des conditions inacceptables et inhumaines. Et ça, c'est des victimes collatérales de cet enchevêtrement des responsabilités. Et ben moi, je pense qu'il faut trancher là-dessus, par exemple. Moi, je pense que Paris ne peut pas dire c'est la faute à l'État. Elle doit dire, et c'est ce que je porte, bon, c'est la faute, je pense que c'est la responsabilité de l'État, je le pense vraiment sincèrement, mais je pense qu'il faut que nous prenions notre responsabilité, qui est une responsabilité politique, morale, éthique, créer des places d'hébergement pour permettre à ces jeunes qu'on puisse un minimum prendre soin d'eux. Voilà. Parce que je ne peux pas. J'y étais souvent à la gaieté lyrique et je trouve que c'est en fait insupportable et inadmissible d'avoir ça en plein cœur de Paris, d'avoir ça nulle part tout ailleurs, mais en plein cœur de Paris. Moi, je suis élu parisien, donc je parle de ça. Et je pense que ça, c'est pas possible. Donc, il y a des choses à faire. Il faut changer. Changer la manière dont on voit la collectivité. Oui, les collectivités, elles deviennent des îlots de résistance. Oui, les collectivités, ce sont des endroits où s'inventent aussi des politiques alternatives à cette vague de droite et d'extrême droite qui est en train de déferler sur nous.
La preuve avec New York, d'ailleurs.
Et la preuve avec New York, qui a plus de moyens d'action qu'une ville comme Paris, parce qu'ils ont un pouvoir notamment fiscal.
Pas les mêmes budgets aussi.
Pas les mêmes budgets, mais juste quand même pour dire, c'est aussi l'enjeu de cette élection municipale. L'enjeu de cette élection municipale, c'est que Paris ne bascule pas à droite. Vraiment, je le dis, après chacun et chacune aura ses opinions, mais basculer à droite, ça voudrait dire en fait se priver, pour toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de Paris que je viens de défendre là pendant trois quarts d'heure et qu'on vient d'aborder, c'est leur priver d'un bastion. C'est que le gamin que moi j'étais il y a 25 ans quand je suis arrivé à Paris, n'aura plus cet horizon-là. Donc on parlera, l'idée c'est pas de se dire on va parler de la cherté des prix, des loyers, parce qu'en fait ça sera le marché et basta, et donc les prix vont augmenter, mais c'est juste qu'il n'y aura plus cet îlot de liberté et d'émancipation que nous essayons de construire. C'est la politique, c'est ça aussi. Voilà. Et donc, tu me parlais de la question des alliances. C'est aussi ça la responsabilité que nous avons. Les alliances et l'unité, ce n'est pas à n'importe quel prix. C'est sur le projet, c'est sur aussi la dynamique que nous pouvons faire. Mais c'est aussi pour préserver Paris. Et pas que pour nous, pour tout le monde. En tout cas, toutes celles et ceux qui se reconnaissent encore dans les valeurs que je défends.
Tu parles beaucoup de liberté. Et il y a un aspect de liberté qui a été, malmené ces derniers temps. C'est notamment pendant les Jeux Olympiques, avec la mise en place des vidéos, de la surveillance par algorithme. Mmh. Ça a été très critiqué. Du coup, on est de moins en moins anonyme, de moins en moins on est libre, même dans les grandes villes. Est-ce que tu aurais des propositions? Qu'est-ce que tu défends, en tout cas, en mesure de sécurité, qui irait à contre-courant de ces... cette surveillance de plus en plus accrue?
Alors moi, je suis un classico-classique là-dessus. Moi, je pense que pour que la sécurité se fasse, alors il y a plein de choses, en fait, en vérité. Hein. D'abord, l'information, la prévention, tout ça, mais c'est de mettre des gens dans la rue. Voilà. Moi, je pense que la police municipale, d'abord, elle n'a pas vocation à être armée, parce que ça sera un débat, bien entendu. Donc, elle n'a pas du tout vocation à être armée. Rajouter des armes dans l'espace public, c'est rajouter des risques que ces armes soient mal utilisées. Donc, moi, je suis fondamentalement et fermement opposé à cela. Et que la police municipale soit la police des incivilités. Je pense que nous avons un sujet d'incivilité, de cohabitation. Hein, il faut cohabiter et mieux cohabiter. Paris est une ville dense. C'est une ville où on est souvent les uns et les unes contre les autres. Donc, c'est relou. Parfois, c'est super de temps en temps, parce qu'on fait la fête, parce qu'on voit des gens, parce que c'est une ville d'opportunité, c'est une ville où on va boire des coups et tout ça, c'est super. Mais on sait qu'il y a plein de problèmes. On sait que les femmes se font harceler dans la rue, on sait qu'il y a des problèmes d'insécurité dans les transports, on sait qu'il y a des problèmes d'incivilité tout court. Moi, je fais du vélo, on en parlait tout à l'heure hors antenne. Je vois et je constate tout le monde n'a pas un comportement super civil sur son vélo et que c'est relou pour les vieilles dames ou les vieux monsieur.
Boulevard Sébastopol.
Non, mais c'est vrai. Alors, ça, on a un problème d'infrastructure. Donc, il y a plein de raisons pour lesquelles il y a ça. Mais donc, moi, je suis pour mettre plus de gens en fait dans la rue, ça vient avec les polices municipales. Mais la police municipale, elle n'est pas là juste pour sanctionner. Elle est là pour parler, elle est là pour... discuter, pour faire de la prévention et juste parfois d'être là. Moi, j'ai un modèle, c'est que je trouve que faut remettre du positif dans les uniformes. Donc, c'est-à-dire que vraiment, le truc, c'est de dire, bon, ben, en fait, oui, ben, ces gens sont là, et c'est super. Et ça permet d'apaiser tout le monde. Parce qu'ils peuvent agir s'il y a un problème. Et aujourd'hui, en fait, ça ne sert à rien de mettre des... Enfin, moi, je pense qu'on va vers une société qui n'est pas celle que je défends. La société de la vidéosurveillance où tout le monde surveille tout le monde, où, en fait, on a pu, effectivement, l'anonymat, par exemple. Une ville comme Paris, c'est extraordinaire, normalement. C'est que, quand même, vous pouvez goûter à l'anonymat. Le principe de la fête, par exemple, c'est parce que vous pouvez goûter, d'une certaine manière, à une forme d'anonymat. C'est-à-dire que vous pouvez vous lâcher. Parce que, en gros, ce qui reste entre ce qui se fait entre 23h et 5h du matin reste entre 23h et 5h du matin. Je caricature un peu, évidemment, on n'a pas. Mais si en fait tout le monde est surveillé tout le temps, ça ne fonctionne pas. Il faut garder des espaces de liberté, des espaces aussi où les gens peuvent s'exprimer, exprimer d'autres facettes d'eux-mêmes. Et ça, c'est aussi extraordinaire. Donc ça, il faut le préserver, bien sûr. Ça ne veut pas dire que c'est un truc complètement libertaire, pas du tout. Moi, je crois beaucoup à la sécurité du quotidien, mais je crois que là, dans la responsabilité qui est celle de la ville, moi, j'investirai dans la police municipale, dans plus d'agents, plus de gens dans les rues. Et je l'ai déjà dit, je pense que nous avons aujourd'hui un maillage suffisant de vidéosurveillance dans cette ville.
Très bien. Je voulais te faire réagir aussi à l'actualité. Il y a eu des documents, notamment de Mediapart, qui ont été révélés hier sur la responsabilité des gendarmes à Sainte-Soline. J'aimerais avoir ta réaction sur ça et aussi plus globalement sur le fait que les militants écologistes sont de plus en plus criminalisés, de plus en plus réprimés. Et j'aimerais savoir, toi, en tant qu'écologiste, comment tu fais face à ça et ce que tu en penses.
Alors, je confesse de ne pas avoir lu Mediapart, donc je n'ai pas vu, c'est quoi, c'est les violences policières.
C'est des vidéos qui montrent à quel point les gendarmes étaient là pour casser, entre guillemets, du manifestant, et ouais, que la responsabilité, ouais, en fait, ce n'est pas du tout celle qui avait été présentée, ouais, par les médias dans un premier temps.
Bon, globalement, c'est quand même ce que les gens de chez nous qui étaient sur place nous décrivaient. Donc voilà, c'est typiquement ça qui fait rompre la confiance avec l'uniforme. Les violences policières, l'usage en fait immodéré et surtout discriminant, hein, de la force légitime, pour reprendre Weber, sans faire de la sociologie à deux balles, mais quand même, on voit bien là qu'il y a un problème dans l'usage qui est fait, ou en tout cas qui aurait été fait, j'ai pas lu le papier donc je vais le prendre au conditionnel, qui aurait été fait des forces policières. Mais enfin, moi, j'ai vu les images, moi, j'ai eu les témoignages. En fait, tout ça ne me surprend pas. C'est quand même, je pense, à peu près ce qui s'est passé. Et ensuite, oui, on a un problème de criminalisation des militantes et militantes de gauche en général, et des écolos en particulier. Moi, je l'ai vu en 5 ans. Hein. Vous savez, en 5 ans, j'ai vu... Alors, je ne sais pas, parce que, évidemment, je suis devenu adjoint au transport. Donc, les transports, vous faites tout le temps taper dessus. Mais transport plus écologiste, c'est vraiment le combo perdant, hein, sur les réseaux sociaux. C'est qu'en fait, j'ai vu à quel point la haine s'était cristallisée. Et cette haine, elle a été légitimée par le gouvernement. L'éco-terrorisme, par exemple, comment vous pouvez dire que des gens qui, même si on peut discuter de l'action, mais des gens qui mettent sur des vitres de la peinture ou de la soupe, parce que sur des œuvres d'art, je ne sais pas si vous vous rappelez de ces actions-là. Bon, moi, je n'ai pas d'avis de la part. Enfin, je trouve pas. Enfin, moi, ça ne me parle pas trop, ce genre de truc. Mais qu'importe. En fait, je vois le message et il n'y a pas de dégradation. Il n'y a pas de dégradation. C'est sur des vitres. Les œuvres sont préservées. Et c'est une image symbolique. Moi, je viens de la lutte contre le sida. La lutte contre le sida, c'est vraiment ça le cœur du truc. Hein. C'était, ils jetaient du faux sang, ils mettaient une capote sur l'obélisque. Enfin, c'était ça le truc. Donc, c'était des images très symboliques pour marquer les esprits. Là, c'est un peu la même chose. C'est pour attirer l'attention. Et ça fonctionne d'une certaine manière. Ça crée le débat. Mais quand un gouvernement et des ministres disent « ça, c'est de l'éco-terrorisme », vous voyez bien que ce n'est pas la même chose. On va être aux 10 ans des attentats du Bataclan. Moi, je suis élu du 11e. Le 11e a été très violemment frappé il y a 10 ans par les terroristes. Ça, c'est du terrorisme. Les mots ont un sens. Les gens, ils sont morts.
Mais ces mots façonnent le réel aussi, du coup.
Oui, bien sûr. Mmh. Mais c'est pour ça qu'à partir du moment où vous avez... parce qu'on dit qu'il y a une décrédibilisation de la parole politique. Ce n'est pas complètement vrai. À partir du moment où vous avez un président de la République, des ministres importants, des officiels d'une certaine manière, qui commencent à qualifier les choses de cette manière, en fait, ils ouvrent la boîte de Pandore. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on le voit. Vous êtes en contestation, vous êtes un terroriste. Et demain, ce sera les syndicats. Hein. Je veux dire, c'est ça le truc. Hein. Donc, c'est une société très autoritaire, qui est en train de se dessiner, parce que en fait, on mélange les responsables de ceux qui luttent contre ces responsabilités. C'est-à-dire, en gros, on dit, moi, j'ai vu le truc twisté, quoi. C'est-à-dire, en gros, c'est pas la question, c'est pas la faute du climat, c'est la faute des écologistes. Voilà, les militants antiracistes devenaient les militants racistes, devenaient les porteurs de racisme. Enfin, c'est la grande confusion des esprits. Hein. Et ça, ça, c'est typiquement le terreau qui va faire venir le fascisme, et qui est en train de le faire venir, d'ailleurs.
Merci David. J'avais une question aussi sur la solidarité internationale. On sait que les morts continuent en Palestine malgré le cessez-le-feu. La ville de Paris a été très très prompte à souligner notamment son soutien à l'Ukraine avec des drapeaux partout. C'est pas forcément le cas pour la Palestine. J'aimerais savoir si tu es élu, quelle place tu laisseras à la solidarité internationale et notamment à cette question avec un génocide qui s'est fait en 4K sous les yeux de tous et de toutes.
Je pense que Paris n'est pas à la hauteur du soutien qu'elle doit afficher au peuple palestinien. Donc c'est ce que je porte avec les élus de mon groupe au Conseil de Paris. Paris a évidemment un rôle à jouer, mais qui est un rôle très symbolique, très politique, mais qui peut être aussi très concret, hein, d'accueil, notamment pour les Ukrainiens et les Ukrainiennes, d'accueil d'intellectuels, de bases arrières, ou en tout cas de lieux de refuge pour construire aussi des ripostes politiques. Bon, tout ça, c'est concret. C'est des petites choses, mais c'est quand même concret. Il faut faire la même chose là-bas. Enfin, on ne peut pas avoir deux poids, deux mesures. Bon. Pour moult raisons, ça n'a pas été le cas. Moi, je crois qu'en fait, nous avons défendu notamment le fait que la Tour Eiffel, au début, la Tour Eiffel se pare des couleurs de la Palestine, puis que la Tour Eiffel s'éteigne parce qu'on pensait que c'était plus acceptable. Et puis finalement, on a eu un truc un peu avec les deux drapeaux. Bon.
Assez incohérent d'ailleurs.
Bon, voilà, ça a été fait, donc j'ai salué le geste. Mais on voit bien qu'on est très loin. Voilà. Et ça fracture, hein, ça traverse la gauche, ça traverse, et je le regrette d'ailleurs, hein, et ça traverse la société parisienne. Mais je crois que moi, je fais partie des élus qui ont condamné les attentats du 7 octobre et qui étaient d'ailleurs en manifestation à suite de ces, enfin, en rassemblement plutôt, suite de ces attentats. Mais je le fais aussi, enfin, j'ai la même attitude aussi pour le soutien à Gaza. Parce que en fait, notre position à nous, c'est de dire une paix, deux pays, enfin, on a deux États, pardon. Et en fait, c'est, je pense, cette ligne-là qu'il faut défendre. Aujourd'hui, Paris ne défend pas suffisamment le peuple palestinien et ne dénonce pas suffisamment le génocide qui est en cours encore.
Mais c'est pas compliqué, justement, avec, en étant dans cette majorité PS où dans cette majorité, il y a quand même pas mal de gens qui ont aussi des liens avec le sionisme. On pense au PS, à Jérôme Guedj, mais aussi au niveau de la position d'Hidalgo. Enfin, du coup, là, je le sens un petit peu dans ta posture, rien que par rapport à la Tour Eiffel, où t'es dans un entre-deux en termes de pouvoir, c'est un peu compliqué.
Bon, moi, je qualifierais pas les gens du PS sionistes et tout ça. C'est pas mes mots. Moi, ce que j'observe simplement, c'est qu'on a des débats. Et encore une fois, je ne rends pas ces débats illégitimes. Moi, ce que je pense, je vous donne ma position et celle aussi de ma famille politique. Ma position à moi, c'est de dire qu'aujourd'hui, Paris peut et devrait et doit apporter un soutien plus fort qu'elle ne le fait aujourd'hui au peuple palestinien. Voilà, ça, c'est ce que je dis. Et effectivement, tu sais, des discussions et des points d'achoppement, on en a beaucoup. Mais encore une fois, la question qui nous est posée pour 2026, c'est est-ce que nous préférons avoir des débats avec la gauche et essayer, bon an, mal an, de construire une politique et de faire que Paris reste cette ville et s'amplifie et s'embellisse, etc., etc. Ou est-ce qu'on préfère voir la droite arriver au pouvoir? Donc, moi, c'est choisi. Voilà.
Très bien. Et donc, pour une dernière question, très rapidement. Donc, du coup, t'assumes totalement que pour éviter que Paris ne tombe à droite, le jeu des alliances pourrait encore arriver au deuxième tour, comme ça a été le cas lors des dernières élections.
Ah, mais je le souhaite. Je souhaite, en fait, qu'il y ait effectivement.
Un grand rassemblement de la gauche, un peu comme on l'a vu avec le NSP.
C'est ce que nous portons et c'est ce que je porte depuis le début de cette élection. C'est très compliqué. Je vais te dire, c'est très complexe. Et tout le monde sait autour de cette table, j'imagine, à quel point. D'ailleurs, tu as glissé un peu les lignes de tension, mais. C'est beaucoup de gens se détestent et voilà, bon, c'est comme ça, c'est la vie. Mais par contre, en fait, on a tous quand même en bagage, j'espère, des formes de responsabilité. Paris, en fait, ne se gagnera qu'à un moment que si on fait l'union. Et moi, je le dis, du coup, ici, pour faire un petit peu ma pub quand même, c'est que le meilleur moyen de faire l'union de toutes et tous, c'est de mettre en tête celui et ceux, et celles et ceux, qui défendent une union la plus large possible. Alors, moi, je ne prendrai pas de risque, donc j'appellerai tout le monde à faire ensemble.
Et sur la base d'un programme radical.
Sur la base d'un programme, mais qui sera de toute façon des problèmes. Tu sais, les programmes radicaux, bien sûr. D'ailleurs, pour qu'ils soient radicaux, il faut que les gens qui portent des programmes radicaux de rupture viennent. Mais après, c'est toujours aussi des formes de compromis, surtout si tu veux faire ensemble. Parce que sinon, ça veut dire que tout le monde ne s'y retrouve pas. Donc, il faut quand même réussir à faire ensemble. Et en fait, encore une fois, pour ça, c'est aussi, ça va être le choix des gens. Donc, le choix des Parisiens et des Parisiennes. Et notamment celles et ceux qui se reconnaissent dans les valeurs que j'ai un peu évoquées là pendant cette heure de discussion avec vous, et de se dire qu'est-ce qu'ils veulent aussi à la fin, c'est quoi le chemin, c'est quoi le projet, mais c'est aussi quoi le chemin qu'ils veulent voir advenir. Voilà.
Très bien. Merci David Belliard, je crois que c'était très très clair. Merci d'avoir accepté cette invitation. Ça a été pour toi ?
Mais oui, super, c'était très sympa.
Ravi d'avoir, de t'avoir
J'espère
accueilli.
Que pour vous aussi, surtout. Et sur celles et ceux qui nous écoutent. Et
évidemment. Ambrine, ça a été ?
Oui, ça a été.
T'as appris des choses ?
Franchement, on a répondu aux questions que je me posais, qu'on se posait, que je pense que tous les jeunes et parisiens, non-parisiens, se posaient également.
Assia aussi, même constat ?
Oui, effectivement. Il a su être clair et concis.
Très bien. Voilà. Bah, j'espère que vous viendrez pour les autres candidats et comme ça, on pourra leur poser encore d'autres questions. Thibaut ?
Moi, j'ai pu discuter série One Piece, donc à un moment, j'étais quand même content.
L'objectif s'est fait atteint. Bah, je te remercie. Merci à vous tous d'avoir été présents et d'avoir joué le jeu. Je vais remercier les auditeurs et les auditrices. Daniel, notre directeur qui était en technique aujourd'hui pour faire en sorte que tout se passe bien. Et voilà, je vous donne rendez-vous sur les ondes de Montparis FM. Toutes nos émissions sont retrouvables en podcast sur toutes les plateformes de streaming, téléchargement, etc. Je vous remercie et on se retrouve dans deux semaines pour la prochaine émission. Ciao.